Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 30 mai 2019, en direct de Washington, Eric Manirakiza, pour commencer les titres. L'ex-opposant et Premier ministre Étienne Tshisekedi sera inhumé samedi à Kinshasa, plus de 2 ans après sa mort à Bruxelles. Au Niger, plusieurs villes dont Niamey subissent de longues coupures d'électricité sous une forte canicule et pendant le Ramadan. La zone de libre-échange de l'Union africaine entre en vigueur aujourd'hui et devrait être opérationnelle en juillet. Situation inédite en Israël, les électeurs retournent aux urnes une deuxième fois en 5 mois pour de nouvelles législatives. Et dans 10 minutes, votre page sport et la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. En RDC, 3 jours de funérailles et d'hommages sont prévus après le rapatriement ce jeudi de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, opposant historique et père de l'actuel président Félix Tshisekedi. L'ancien premier ministre congolais doit être inhumé samedi en grande pompe, plus de 2 ans après sa mort à Bruxelles. Les précisions de Walter Nkouille de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le programme est désormais précis s'agissant de l'arrivée de la dépouille mortelle de feu Étienne Tshisekedi à Kinshasa par l'aéroport international de Ndjili. Le corps sera acheminé directement à l'hôpital du cinquantenaire où il va être mis à la morgue. Plus de 25 kilomètres de boulevard, des militants, des curieux, des Congolais, des Kinois, plusieurs personnes qui attendent impatiemment le passage du cortège funéraire d'Étienne Tshisekedi, ancien premier ministre de la RDC, qui sera exposé demain, vendredi, au stade des martyrs, qui peut contenir 80 000 personnes. Et c'est là que va se passer toute la cérémonie qui va s'achever par une messe qui sera dite par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, samedi matin. Et puis, à la mi-journée, le corps sera acheminé au mausolée construit à un peu plus de 30 kilomètres dans la banlieue où va se reposer pour l'éternité Étienne Tshisekedi. Depuis Kinshasa, Walter Nkouille de Top Congo pour VOA Afrique.
Et dans l'est de la RDC, l'armée affirme avoir tué 26 miliciens des ADF dans une contre-offensive dans la localité d'Ongite Mavivi, proche de Beni. Elle a exposé 23 corps de ses miliciens à la mairie de Beni. L'armée a promis de les enterrer avec dignité. De ces dernières attaques attribuées aux ADF ont été revendiquées par le groupe État islamique sans preuve formelle. Les obsèques du chef historique de l'ex-rébellion angolaise de l'UNITA, Jonas Savimbi, prévues samedi 17 ans après sa mort, représentent un pas supplémentaire vers la réconciliation, a déclaré Isaias Samakuva, actuel leader de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'ex-mouvement rebelle devenu maintenant un parti politique d'opposition. En Centrafrique, les militaires sont de retour au carrefour stratégique de Kagabandoro dans le nord du pays. Le béret des forces armées centrafricaines FACA n'avait plus été vu dans cette ville depuis des années. Cette zone était depuis 2014 contrôlée uniquement par des groupes armés. Kagabandoro accueille le plus grand marché de bétail du pays. La taxation sur bétail constitue la principale source de revenus des groupes issus de l'ex-Séléka. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari était absent hier à son dîner d'investiture à Abuja, puis après avoir prêté serment lors d'une cérémonie sobre et discrète. Il n'a fait aucun discours, rompant avec la tradition. Le vice-président Yemi Osinbajo a présidé la cérémonie de ce dîner de gala donné en l'honneur du président Buhari. La zone de libre-échange continentale, projet phare de l'Union africaine, est entrée en vigueur aujourd'hui avec pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. N'est-ce pas, Yacouba Ouédraogo?
52 membres de l'Union africaine sur 55 ont signé l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale. Pour entrer en vigueur, il fallait que 22 membres ratifient la ZLEC et notifient officiellement à l'organisation continentale. Ce seuil a été atteint le 29 avril. Des poids lourds comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ou l'Éthiopie l'ont ratifié, à l'exception de la première économie du continent, le Nigeria. La zone de libre-échange doit permettre l'élimination progressive des droits de douane entre les pays membres. L'Union africaine estime que la mise en œuvre de la ZLEC permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce s'effectue avec d'autres pays du continent. La phase opérationnelle de la ZLEC va être lancée le 7 juin lors d'un sommet de l'Union africaine à Niamey. Auparavant, les experts doivent finaliser la définition des règles d'origine des marchandises ou encore des mécanismes en vue de l'élimination d'obstacles tels que la corruption. Si les 55 pays membres signent le document, la ZLEC ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes.
Nous reviendrons sur la zone de libre-échange dans notre partie magazine. Au Niger, plusieurs villes dont la capitale Niamey subissent depuis 4 jours de gros délestages en raison de perturbations dans la fourniture du courant acheminé depuis le Nigeria voisin. C'est le mois de Ramadan et il fait extrêmement chaud. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Selon la société nigérienne d'électricité, le problème est survenu en début de semaine après la chute de 2 pylônes qui acheminent le courant à Niamey à partir du Nigeria. Des coupures répétées pouvant durer des journées entières sont observées à Niamey, une ville de 1,5 million d'habitants. La pénurie de courant touche également les régions de Dosso et Tillabéri. Les responsables de la Nigelec se sont rendus sur les lieux où des techniciens s'activent à rétablir la ligne électrique fortement endommagée, selon les images de la télévision d'État. De mi-avril à mi-mai, Niamey a déjà enduré près d'un mois de coupure, longue et répétée, principalement en raison d'un problème sur les lignes provenant du Nigeria, qui fournit au Niger 80% de son électricité. Les habitants de Niamey sont certes habitués aux coupures, mais la situation actuelle est exceptionnelle et coïncide avec la période de Ramadan et une forte canicule.
3 migrants nigériens sont morts de soif. La semaine passée, 10 ont été sauvés en plein désert. Ils étaient en route pour la Libye. La marine italienne a secouru 100 de migrants en Méditerranée sur un canon en détresse ce matin. Près de 180 personnes épuisées ont débarqué dans la nuit ou la matinée sur l'île italienne de Lampedusa et à Malte.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a essuyé un revers pour avoir échoué à former à temps une coalition gouvernementale. Les électeurs vont devoir retourner aux urnes quelques semaines après le précédent scrutin. C'est du jamais vu en Israël, comme le dit Claire Morin-Gibourg.
C'est sous les cris de « honte à vous » lancés par l'opposition que le Parlement israélien a voté à la première heure aujourd'hui sa propre dissolution et la tenue de nouvelles élections. C'est la surprise générale alors que les législatives ont eu lieu il y a seulement quelques semaines. Les Israéliens retourneront donc aux urnes le 17 septembre pour la 2e fois en 5 mois. Benjamin Netanyahou essuie là une rare défaite politique alors qu'il est au pouvoir sans discontinuer depuis 2009. Bibi, comme on le surnomme en Israël, est fragilisé par son inculpation possible dans 3 affaires de corruption présumées. Début octobre, 2 semaines après les élections, Monsieur Netanyahou en rab 5-4-3-2-1-0. Début octobre, 2 semaines après les élections, M. Netanyahou aura rendez-vous avec le procureur général qui doit décider ou non de son inculpation. Comme en avril, ce prochain scrutin risque de devenir une sorte de référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou.
Le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, est à Jérusalem pour discuter du plan américain pour résoudre le conflit avec les Palestiniens. Les dirigeants palestiniens ont déjà fait savoir qu'ils rejetaient ce plan, affirmant que le président américain avait un flagrant parti pris en faveur d'Israël. La Maison-Blanche a prévu de présenter les 25 et 26 juin à Bahreïn le volet économique de son plan. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont annoncé leur participation. L'Arabie saoudite cherche à assurer les rangs face à son grand rival, l'Iran, en accueillant à partir d'aujourd'hui à la Mecque des dirigeants arabes et musulmans pour trois sommets en pleine tension dans le Golfe. Selon des analystes, Riyad veut isoler Téhéran. Dans le contexte de ces tensions actuelles, le royaume saoudien sunnite est un proche allié de Washington et considère l'Iran chiite comme son ennemi juré. En Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans un attentat suicide visant l'Académie militaire nationale dans l'ouest de Kaboul. Les représentants talibans et membres de l'opposition au gouvernement afghan se sont quittés aujourd'hui à l'issue de 2 jours de pourparlers à Moscou en revendiquant d'immenses progrès. Le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui avoir reçu plus de 750 000 demandes de citoyens de l'Union européenne installés au Royaume-Uni, souhaitant obtenir un statut de résident permanent pour continuer à vivre dans le pays après le Brexit, travailler ou toucher des prestations sociales. Près de 4 millions de citoyens européens vivent actuellement au Royaume-Uni. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, retrouvée Nanit Talani dans la Minute Éco.
Pour accompagner davantage les producteurs du coton au titre de la campagne 2019-2020, le gouvernement burkinabé a décidé d'octroyer une subvention de 11,331 milliards de francs CFA destinée à apurer les impayés internes de ces deux dernières années. Le site InfoWakat écrit que les prix des intrants agricoles seront revus à la baisse. Le sac de 50 kg coûtera 14 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs. Le prix d'achat plancher du coton graine sera à 265 francs CFA par kilo, soit une augmentation de 5 francs par kilo. La Banque africaine de développement a accordé à la banque tunisienne Amen Bank 57,5 millions d'euros pour développer le commerce et accompagner les petites et moyennes entreprises. Cette enveloppe se compose d'un prêt d'investissement à long terme de 35 millions d'euros, d'une facilité de 15 millions d'euros et d'un complément de 7,5 millions d'euros provenant du fonds Africa Growing Together Fund. Pour terminer, la zone de libre-échange continentale, projet phare de l'Union africaine, est entrée en vigueur ce jeudi. Le but est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022 contre seulement 16% actuellement. La nouvelle zone est censée permettre l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres. Sa phase opérationnelle sera lancée le 7 juillet lors d'un sommet de l'Union africaine au Niger.
Et maintenant, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le mondial des moins de 20 ans. Les Lions de la Teranga, on parlait bien du Sénégal, Yacouba, termine premier de son groupe.
Oui Eric, le Sénégal a tenu en échec la Pologne 0-0 en match comptant pour la troisième journée et termine du coup en tête du groupe A avec 7 points dans son escarcelle. Déjà qualifié après seulement 2 matchs, les Lionceaux de la Teranga ont assuré leur première place devant la Colombie qui a battu 6-0 Tahiti. Ils n'ont concédé aucun but en 3 sorties. Le pays hôte, la Pologne, sera aussi un du rendez-vous des 8e de finale en s'acquittant de l'un des tickets affectés aux 4 meilleurs 3e des 6 groupes.
Et Mbaye Niang signe à Rennes jusqu'en 2023.
Oui, l'attaquant international sénégalais a signé jusqu'en 2023 à Rennes après que le club breton a levé l'option d'achat de 15 millions d'euros du buteur qui était prêté par le Torino cette saison. Arrivé après une Coupe du Monde en Russie réussie, Mbaye Niang, 24 ans, a connu un début de saison difficile sous les ordres de Sabri Lamouchi. Lors de la trêve hivernale, l'hypothèse d'une rupture du prêt pour le renvoyer en Italie avait même été envisagée, mais il a réalisé une phase retour remarquable sous les ordres du nouvel entraîneur Julien Stéphane, terminant meilleur buteur du club avec 14 réalisations, toutes compétitions confondues.
Et on parle de la NBA. Pascal Siakam envoie un message d'espoir à l'Afrique.
Cela fait vraiment plaisir pour un enfant du Cameroun et d'Afrique d'être à ce niveau. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment fier de représenter le Cameroun et l'Afrique, a expliqué l'ailier camerounais de Toronto, coéquipier du Congolais Serge Ibaka, avant le premier match de la finale NBA qui débute ce soir face au double champion en titre Golden State. À 25 ans, Pascal Siakam est l'une des révélations de la saison 2018-2019 et pourrait recevoir fin juin le trophée de joueur ayant le plus puisse progresser. Il a quitté le Cameroun pour les États-Unis en 2013 pour rejoindre d'abord un lycée dans le Texas, puis l'Université du Nouveau-Mexique entre 2014 et 2016. Drafté en 2016 par Toronto, il a explosé cette saison avec des statistiques de 16,6 points et 6,9 rebonds par match en saison régulière. Et justement, s'il y a quelqu'un qui connaît bien ces Africains de la NBA, c'est le président de la Basketball League Africa. Écoutons Amadou Gallo Fall.
De nouveau avec vous, Eric Manilakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La zone de libre-échange continentale est entrée en vigueur ce jeudi 30 mai. Le traité visant à éliminer les barrières douanières en Afrique a été signé par 49 États et ratifié par 22 États. Le grand absent, c'est le Nigeria, qui a peur d'une arrivée massive de produits qui vont menacer son industrie. Les pays ont un mois pour mettre en place les outils nécessaires à son application. Un sommet de l'Union africaine est d'ailleurs prévu le 7 juillet à Niamey. Pour analyse, Abdulrahman Dia a joint à Dakar le spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Khan.
Pour une fois, les États africains ont décidé de mettre en place un système, un mécanisme pour, semble-t-il, accélérer l'intégration régionale. Et cela a pris peu de temps. En moins de 2 ans, on a eu le minimum de ratification nécessaire pour l'entrée en vigueur de ce texte. Cela montre que s'il y a de la volonté parmi les États africains, on peut faire bouger les lignes lorsqu'il s'agit d'intégrer le continent, en tout cas lorsqu'il s'agit de faire avancer les dossiers.
L'accord a été signé par 49 États, ratifié par 22, mais le grand absent, c'est le Nigeria qui a peur d'une arrivée massive de produits qui vont menacer son industrie.
La réticence de la deuxième économie africaine est une indication claire des dangers qui guettent le continent. Parce que de quoi il s'agit ? Il s'agit pour les États africains de créer une sorte de marché intérieur africain au sein duquel il n'y a plus de droits de douane. Vous-même, vous savez que d'un point de vue économique, l'Afrique est plein de déserts, mais aussi plein de poches où comme l'Afrique du Sud, comme le Kenya ou une bonne partie des États de l'Afrique du Nord, où l'économie de ces pays est pratiquement contrôlée par des puissances étrangères. Cela veut dire que si ce marché-là est ouvert, il risque de tuer les petites industries dans beaucoup de pays qui sont pauvres et pratiquement de noyer le continent avec des produits qui viennent de l'extérieur.
Et l'autre problème, c'est que beaucoup de pays n'ont pas mis en place les outils nécessaires pour l'ouverture de leur marché. Et un sommet de l'Union africaine est d'ailleurs prévu le 7 juillet. Combien de temps, à votre avis, cela prendra-t-il avant l'effectivité, d'un marché africain commun?
Ça prendra beaucoup de temps. Et il me semble que dans ce domaine, on a été très vite en besogne et on ne sait pas réellement appuyé sur ce que l'Afrique a mis en place comme les outils de l'intégration, à savoir les communautés économiques régionales.
Donc pour vous, il faudrait d'abord réussir l'intégration régionale avant de passer au niveau continental.
Oui, parce que l'intégration régionale permet au moins de mettre les États au niveau de chaque région, d'essayer de voir par quels moyens faire en sorte que les États les plus faibles remontent un peu la pente.
C'était Ibrahima Khan, joint à Dakar.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Nous évoquons aujourd'hui le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Plus de 2 ans après sa mort, le rapatriement de son corps a été maintes fois repoussé. Que pensez-vous du retard pour les obsèques du chef historique de l'UDPS? Que retenez-vous de la vie de l'opposant historique congolais et père du président Félix Tshisekedi? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h05, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 2633. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Au Tchad, un an après l'entrée en vigueur de la constitution consacrant la 4e République, les caciques du parti au pouvoir, les plus ardents promoteurs de cette réforme, ne parlent plus le même langage. Noureddine Delloy, Kassiré Koumankoy et Paimi Padaké Albert ne s'entendent pas sur la manière de procéder pour réduire le train de vie de l'État. Une situation qui risque de retarder le calendrier électoral. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Nous sommes profondément convaincus que le système institutionnel de la 4e République n'est pas bon pour notre pays et que l'État, être impersonnel et commun à tous, ne peut persister dans l'erreur.
Paimi Padaké Albert, ancien Premier ministre et président du Haut Comité de réforme institutionnelle, ayant abouti à la mise en place de cette loi fondamentale supprimant la primature. Il se rend compte un an après que la 4e République est loin d'être une République qu'il croyait. Selon lui, le président Déby aurait mieux fait de le remplacer à la primature que de supprimer l'institution. Paimi Padaké Albert dit ne pas comprendre qu'on supprime certaines institutions et on crée de nouvelles unités administratives.
Au niveau territorial, on est passé de 23 régions à 23 provinces. Réforme du nom de baptême. Pour quelle amélioration? De 77 départements, on est passé à 113 départements. De 375 sous-préfectures qu'on a supprimées, on est passé à 438 communes. Le système institutionnel de la 4e République marque globalement un recul tant sur le terrain du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs que sur celui de la gouvernance administrative.
La virginité politique a horreur de mensonges.
Noureddine Delloy Kassiré Koumankoy, président du Présidium du Forum National Inclusif et aujourd'hui ministre d'État, ministre conseiller à la présidence. Pour lui, Paimi Padaké Albert est un hypocrite.
Qui a signé l'arrêté nommant les membres des différentes commissions préparatoires du Forum National Inclusif? Je suis le maître d'hôtel de cette constitution et le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itounou, qui est le bénéficiaire. Mais il n'est pas l'auteur pour qu'on puisse l'accuser.
Les partis politiques de l'opposition estiment eux aussi que la constitution consacrant la 4e République est taillée pour maintenir le président Déby au pouvoir. Pour Max Kamkoui, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès, même la nouvelle cartographie administrative basée sur l'ordonnance 1 du 11 février 2019 ne précise pas les différences entre unités administratives et collectivités autonomes, ce qui va retarder l'organisation des élections législatives annoncées tambour battant.
Est-ce qu'on connaît la démographie actuelle du nouveau département? Quel nombre de populations a-t-on pris dans l'ancien département pour en constituer un autre département? On ne sait pas.
Une situation qui a déjà joué sur le calendrier électoral. Contre toute attente, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Koudi Mahamat, vient d'ajourner sa publication alors que son institution avait déjà eu un avant-projet du chronogramme. André Kodmajingar N'Djamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burkina Faso, l'évacuation ou non du général Djibril Bassolé pour des raisons de santé fait débat dans le pays. Évacué une première fois, le présumé auteur du coup d'État manqué de septembre 2016 attend une autorisation pour aller recevoir des soins à l'étranger, mais reste toujours bloqué à Ouagadougou. Des détails à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire de l'évacuation sanitaire du général Djibril Bassolé crée une véritable polémique au Burkina Faso face aux condamnations de certains opposants et citoyens qui accusent le gouvernement de vouloir la mort du premier général de gendarmerie du pays. Mercredi, le ministre de la Justice, René Bagoro, a dû s'expliquer devant le Parlement.
Le tribunal militaire est saisi parce que l'intéressé comparaît devant une juridiction. Ce n'est pas aux politiques, ce n'est pas au chef de l'État, encore moins au ministre de la Justice, de décider. C'est le tribunal qui doit l'autoriser à s'absenter. Et actuellement, le tribunal militaire est saisi. Mais puisque les avocats sont en mouvement, ils disent qu'ils n'assument pas les audiences pénales, le tribunal ne peut pas prendre une décision sans tenir une audience. Aujourd'hui, si les avocats repartent aux audiences du tribunal militaire, le tribunal militaire va décider. C'est pour ça que le dossier est encore en cours. Une fois que la décision aura été prise par le tribunal, c'est autorisé. Ce que le gouvernement doit faire, c'est de mettre les moyens à disposition pour l'évacuation.
Sur une radio locale ce jeudi, le bâtonnier Paulès Alambéré s'est dit étonné des propos du ministre. Je veux bien que le ministre trouve des arguments pour justifier la léthargie du tribunal militaire, a dit le bâtonnier, refutant toute conséquence de la grève des avocats dans la lenteur de la décision sur l'évacuation sanitaire. La position du ministre est difficilement défendable, relève aussi de son côté l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Les autres cas qui sont passés, ce n'était pas par les audiences. Le président du tribunal est le maître de la procédure. Donc c'est lui qui décide de façon discrétionnaire si un prévenu ou un accusé doit être présent ou pas, s'il peut aller se soigner ou pas. C'est le président qui décide de ça. Maintenant, le ministre certainement cherche un argument technique pour soutenir peut-être une position politique. Techniquement, c'est pas justifié parce que le président est libre d'accorder l'autorisation de sortir ou pas.
Dans la rue, les avis des citoyens sont tout aussi divergents.
Je souhaiterais que, pour une question de santé, que le gouvernement prenne des mesures exceptionnelles pour pouvoir voir le cadre des intéressés passer. Il a servi le pays.
Voilà, si la justice et puis tout ce cadre judiciaire, ils sont là, ils s'appuient pour dire qu'il n'y a pas eu audience, il n'y a pas eu audience. Si le monsieur là meurt là, quelle audience encore ils vont organiser pour juger qui? Et vous êtes là, vous parlez de cohésion sociale, de pardon, de tout ça là.
Donc si vous dites qu'il est mort, que c'est le président qui est responsable, que voilà, ça c'est pas normal.
C'est comme le gouvernement dit, meurt comme ça, ça va être évacué. Mais une seule personne va parler comme ça. Même si, mais il faut que c'est eux-mêmes qui devaient occuper les hôpitaux. Vous voyez comment c'est très mauvais. Ils ont tué tout l'hôpital là. Et maintenant vous prenez l'avion, vous partez vous faire soigner, et là que vous laissez le pauvre souffrir.
Cette deuxième évacuation en attente fait suite à une première en Tunisie il y a quelques semaines. Elle est censée permettre une meilleure prise en charge de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, inculpé dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Les mosquées du monde entier ont intensifié leur sécurité pendant le Ramadan à cause des nombreuses attaques sur les lieux de culte. Un reportage de Phil Dierking dans la région Washington, rendu par Lundiaï.
Pour des milliards de musulmans dans le monde, le ramadan est le mois pour servir la communauté, faire le jeûne et les prières quotidiennes. Mais 11 personnes ont été tuées dans une synagogue de Pennsylvanie. Puis en mars, un Australien a abattu 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Pour Hitham Al-Hatib, cela a tout changé.
Since that incident that happened in New Zealand, the Islamic centers and the mosques here in New Zealand.
Depuis cet incident, les mosquées aux États-Unis et partout dans le monde prennent les questions de sécurité beaucoup plus au sérieux. Aujourd'hui, si vous allez à la prière du vendredi ou dans un centre islamique, vous verrez une présence sécuritaire renforcée.
Or even not just Friday, the daily prayers, you will find the presence of security there.
À la mosquée Dar al-Hira en Virginie, les 5 prières quotidiennes sont protégées par les gardes et la police. Pour l'imam Mohamed Hamed Dirié, protéger près d'un millier de fidèles par jour est une priorité.
C'est comme pour toutes les mosquées du pays, nous devons être vigilants et augmenter nos agents de sécurité. Alhamdoulilah, nous n'avons rien à craindre et nous avons la liberté de pratiquer notre religion.
Après les tueries de Christchurch, sa mosquée a commencé à offrir des formations pour répondre à des situations similaires. L'agent de sécurité Abdul Kadir Ismaël est sur place pour la protection des fidèles.
Ils viennent tous avec leurs enfants et leurs femmes et ils viennent confiants et tout en sécurité.
Avez-vous déjà reçu des menaces?
Jusqu'à présent, non.
Et qui est ce qui protège la mosquée?
Dieu vient en premier, ensuite il y a l'équipe de sécurité et la police du comté de Fairfax.
Éduquer les non-musulmans peut accroître la sécurité, d'après Mohamed Farid, un fidèle musulman.
Un des programmes que nous offrons les mardis, c'est une sorte de rencontre interconfessionnelle pour permettre une meilleure connaissance de l'islam et du Coran. L'éducation, c'est la clé.
Le ramadan s'est poursuivi dans la région de Washington, jusque-là sans problème. Les leaders musulmans disent espérer que ce mois se termine sur une réflexion spirituelle plutôt que sur des questions de sécurité.
Et c'est la fin de cette édition. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Merci de l'avoir suivi à la console Zoitech Hightech. Merci à Sim Sulmami pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manerakis à Washington vous souhaite une agréable soirée chez vous. À la prochaine.
VOA Afrique.